Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44, les grands débats du matin, vos appels 0826-300-300. Vous voulez revenir sur cette rentrée scolaire, pour certains de tous les dangers, bien entendu. Et vous revenir aussi sur ce drapeau européen qui a été installé, désinstallé très rapidement. Aujourd'hui, ce matin, vous dites que c'était une énorme escroquerie quand même. Vous étiez contre en majorité. Et puis, on va revenir sur les présidentielles, Patrick, avec oui, Arlette Chabot avec et Christine Bouillot.
Christine, et puis vos appels, bien sûr, 0826-300-300. D'abord, ça fait un peu ce que disait Manuel Bompard, qui est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui était avec nous tout à l'heure. Il parlait d'improvisation totale pour cette rentrée scolaire. C'est vrai qu'on en parle depuis 15 jours. Il y a eu des messages de la part de Jean-Michel Blanquer la semaine dernière, il y a 15 jours, avec les tests là, tous les 2-3 jours, où il a commencé à annoncer ça. Il y a eu des discussions avec les profs, qui étaient quand même assez...
chaotiques.
Qui avaient du mal quand même à comprendre. Et puis finalement, c'est arrivé, les consignes sont arrivées dans les boîtes mail hier soir à 18h30. Improvisation ou pas ? Christine Bouillot avant Arlette Chabot.
Je commence, c'est ça ?
Oui,
Christine,
qu'on n'a pas encore entendu ce matin et qui est avec nous. Oui, Christine.
Improvisation, ça donne cet effet-là. Est-ce qu'on pouvait envisager les choses en amont, c'est-à-dire quand, mercredi, la semaine dernière, alors qu'on était à 100 000 contaminations, on est passé à 200 000 la veille du premier de l'an. Donc, moi, j'avoue que je me mets à la place des enseignants, mais je me mets aussi à la place des parents, dont je fais partie, en fait, on dépose nos enfants à l'école en se disant jusqu'ici tout va bien ou presque bien. Voilà, est-ce que ces mesures-là vont endiguer la vague Omicron ? J'ai encore écouté Olivier Véran qui nous explique que les choses vont tellement vite que finalement, ils décident, et il y a des choses qu'ils ne savent pas s'ils vont les prendre, ou des décisions qu'ils ne savent pas s'ils vont les prendre.
Ouais.
Donc je ne sais pas si c'est de l'improvisation ou si c'est de l'ajustement en permanence. Si on prend la règle du télétravail qui commence aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me dire là tout de suite, de but en blanc, l'histoire de l'isolement ? C'est à partir de combien de, de combien de jours, avec combien de doses de vaccins ? Enfin,
C'est vrai que c'est assez. Il faut avoir un petit carnet. Il faut avoir son petit carnet à côté de soi avec toutes les notes pour savoir évidemment quelles décisions prendre en fonction des situations. Sur le télétravail, par exemple, c'est normalement 3 jours dans les entreprises. On doit favoriser 3 jours de télétravail minimum pour ceux qui le peuvent, quoi. Parce qu'il y a des emplois où c'est difficile de travailler en télétravail. Si vous êtes garagiste, c'est difficile de réparer une voiture et de réparer le pneu crevé de Cécile de ce matin, à distance quand même. Hein.
Oui, alors le télétravail, mais je dirais que c'est les règles aussi d'isolement. On a comme le sentiment, d'une manière générale, que ces mesures sont prises pour faire tourner l'économie en l'espace de 48 heures.
Sûr.
Avec l'explosion du nombre de cas, on est tous autour de nous confrontés à des gens qui sont qu'à contact ou même positifs avec de faibles symptômes. Après, l'autre réalité, si on regarde ce qui se passe du côté des hôpitaux de Marseille, il y a une saturation des hôpitaux à Bordeaux. J'imagine qu'en Ile-de-France, c'est la même chose. Donc, on est entre deux feux, on est entre deux vagues qui continuent. Il y a le Delta et l'Omicron et il y a l'économie à faire tourner, une présidentielle à préparer. Donc, je ne sais pas si Manuel Bompard aurait les bonnes solutions, quel que soit le parti politique, pour faire tourner tout ça sans qu'on ait l'impression de changer de fusil d'épaule à chaque fois.
Arlette Chabot et vous, au 0826-300-300, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette ?
Moi, je pense que l'ajustement permanent, c'est effectivement un argument qui s'entend. Enfin, franchement, il y a une semaine, il y avait une conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé qui annonçait un certain nombre de mesures. Ça fait une semaine. Ils savaient parfaitement, le ministre de la Santé le disait, il parlait même de raz-de-marée Omicron. Il y avait aussi un avertissement du Conseil scientifique parlant de la désorganisation de la société en raison de la contagiosité du virus. Franchement, pour finir par apprendre hier matin, et ce matin d'ailleurs dans Le Parisien, aujourd'hui en France, les mesures concernant les écoles par le ministre de l'Éducation lui-même, Jean-Michel Blanquer, Franchement, une semaine, là, c'est pas de l'ajustement. C'est, il explique qu'il y a un processus, Jean-Michel Blanquer, enfin, quand même, c'est pas raisonnable.
C'est vrai que
peut se prévoir petit peu, ça, quand même. Hein.
Oui, oui. On les directeurs d'école, bien sûr, les directeurs d'école. Et ça concerne surtout le primaire, hein, qui est encore plus impacté que les autres. Et là, en recevant les messages hier soir à 18h30, c'est difficile de faire passer les consignes, véritablement, d'informer à la fois les représentants parents d'élèves, l'ensemble des enseignants, à tel point donc, d'ailleurs il y a une menace de grève d'un préavis d'un syndicat enseignant, quoi, Christine.
Donc franchement, moi je trouve que ça fait très très improvisé et toujours à la limite du retard quand même. On a toujours un coup de retard.
Oui. Bah, c'est-à-dire que dans les mesures qui sont prises, c'était pour Jean-Michel Blanquer, c'est soit on revenait à un protocole très concrètement où dès qu'il y avait un cas, on fermait la classe. On est revenu sur cette décision parce que les enseignants eux-mêmes disaient que ça désorganise complètement le processus scolaire et en particulier dans les collèges et les lycées où quand vous fermez une classe, il faut faire à la fois classe pour des élèves. C'est-à-dire si vous fermez une classe, vous enlevez un professeur. Donc ça veut dire que les enfants n'ont plus cours. C'est quand même quelque chose. C'est soit vous fermez l'école complètement et vous mettez tout le monde à la maison, soit vous essayez d'ajuster tant que vous pouvez ces mesures-là. La vraie raison, le vrai problème, ce sont par exemple les mesures de gestes barrières et ces capteurs de CO2. Enfin, bon sang, ça fait 2 ans qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, là, cette rentrée 2022, cette espèce de coup de booster pour les avoir et rassurer un peu tout le monde? Parce que visiblement, ça peut être quelque chose qui permette d'éviter ces va-et-vient permanents avec des règles sanitaires
C'est pas une solution
pas la panacée.
Non plus. Non, c'est pas la panacée. C'est pas une solution magique, mais avec ces capteurs, on peut voir si, évidemment, l'air n'a pas été renouvelé, et donc on peut ouvrir les fenêtres, sachant qu'il y a des écoles où, évidemment, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Hein.
Alors moi, je pense aussi aux universités. Il y a des partiels qui vont se faire avec des étudiants qui se savent infectés. Oui. On leur a demandé éventuellement de rester. Il y a possibilité de repasser, mais eux n'ont pas envie. Donc, il y a des universités qui ont envoyé un message en demandant aux élèves de se couvrir, s'habiller chaudement, parce qu'on allait ouvrir plus souvent les fenêtres.
Non, mais c'est vrai, il y a des classes, me semble-t-il, pour les partiels dans les facs, réservées aux cas positifs.
Que les étudiants ne veulent pas attendre, et certains cachent qu'ils sont positifs, qu'ils ne veulent pas décaler.
Bien sûr, ils ne le disent pas. Et puis, bon, après, il y a positivité, hein, c'est ce que l'on disait très bien tout à l'heure avec le professeur Megarban, c'est-à-dire que évidemment, si vous avez été cas positif, quelques jours après, vous n'êtes plus contagieux, hein, au bout de 5-6 jours, visiblement c'est ça avec Omicron. En revanche, en faisant les tests, si vous faites un test antigénique, vous pouvez être négatif, mais si vous faites un test PCR, vous pouvez toujours avoir des traces et là, être considéré comme positif, mais pas contagieux. Donc comme quoi, c'est un peu un casse-tête, hein, quand même, cette histoire. Quoi.
C'est à devenir fou, oui. Effectivement, on est fatigué.
Non, pas aussitôt, pas un 3 janvier.
Non, alors, c'est vrai que pour terminer sur ce sujet des écoles, elles peuvent être désorganisées quand même dans les jours qui viennent, parce qu'il y a d'un côté les élèves et puis il y a aussi les enseignants.
Mais
quoi.
Là aussi, il y a une estimation du Conseil scientifique qui dit à peu près 20-30% des enseignants pourraient être absents en raison, effectivement, de la circulation du virus. C'est pour ça que, franchement, le ministère d'Éducation aurait pu s'exprimer un peu plus tôt et donner de nouvelles règles du jeu.
Ou alors, est-ce qu'il fallait repousser de quelques jours cette rentrée scolaire, selon vous, Christine Bouillot?
Oh, ça aurait été sage, effectivement. Peut-être que ça aurait donné un petit peu d'air, mais c'est toujours pareil, c'est les raisons économiques. Comment vous annoncez, qu'est-ce que vous faites des enfants quand vous allongez les vacances scolaires quand ce n'est pas prévu.
Il y a la garde, vraiment, bien sûr, des enfants, notamment pour les petits, hein, bien sûr. Quoi.
Vraiment, ces décisions qui ont été prises, pas de couvre-feu, pas de décision de fermeture de commerce non essentiel, on ne peut pas manger dans les trains dans les transports de longue distance du tout.
Attention, on ne vend pas de boissons et de nourriture. En revanche, on peut quand même consommer. Vous avez vu, Jean Castex avait annoncé ça. Il n'est pas question de manger en fait les chips et puis les sandwichs et d'ouvrir les bouteilles dans les trains. Et finalement, dans le décret, c'est l'interdiction de la vente uniquement.
Mais quel est l'intérêt?
Ils sont venus un peu dessus.
Pour éviter d'être agglutinés au bar, j'imagine.
Ouais. Ah bah les bars sont fermés, hein, de manière dans les, évidemment, dans les trains, dans les wagons. Quoi.
Ouais, et du coup, les gens s'engueulent dans les wagons parce qu'il y en a qui mangent et d'autres qui ont décidé de ne pas manger parce qu'ils avaient entendu le Castex version 1. Et du coup, ça crée des incidents dans les trains. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est un peu confus. Quoi. Ça s'organise, ça se prévoit.
En tout cas, vous dites non, hein, il ne fallait pas reporter, selon vous, sur les réseaux sociaux, vous dites non à 64%.
Oui, il ne fallait pas reporter cette rentrée.
La vraie nouveauté, c'est, en tous les cas, c'est le télétravail, c'est ces 3 jours obligatoires, ça aussi, dans les entreprises, elles se sont organisées dès la semaine dernière parce qu'elles ont eu une semaine pour le faire. Mais c'est vrai que de ce côté-là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, si vous êtes en télétravail et qu'avec vos enfants, on revient toujours à la même question.
Bien sûr.
Les enfants sont à la maison. Comment vous arrivez à fonctionner avec des entreprises qui, elles aussi, s'étaient organisées en mode distanciel pour une partie. Aujourd'hui, on l'impose. Donc, comment ça va se passer? Ce variant Omicron met à rude épreuve une rentrée 2022 sur tous les pans et de l'économie et de notre organisation. Je prêchais pour ma paroisse. Le sport, c'est mon domaine, vous le savez. Mais on fait comment dans les clubs de sport là, à partir d'aujourd'hui? Je ne sais pas.
Non, ça va être assez complexe. D'ailleurs, on en parlera dans La France à vos côtés cette semaine, où on sera en direct notamment avec des responsables en fait, de clubs de sport. Et tout à l'heure, on parlera aussi d'un autre, plus que désagrément, pour certains, c'est quand même une nouvelle catastrophe.
Ce sont les traiteurs.
Oui, avec l'ensemble des cérémonies qui sont reportées, de beaucoup de choses.
Hein. C'est un mois de janvier. Les vœux des mairies, les vœux des entreprises.
C'est un mois de janvier quand même relativement important pour les traiteurs. On en parlera. Et dans un instant, juste après aussi, les infos de 9h, on reviendra sur les masques, bien sûr, et sur le drapeau européen. Je sais que vous voulez réagir, c'est cette question que nous vous posons sur les réseaux sociaux. Le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, est-ce que vous trouvez que c'est choquant? Est-ce qu'il fallait l'associer au drapeau français? Est-ce que c'était un bon symbole? Vous dites que c'est choquant. À 78%.
Absolument.
Dans un instant, vos réactions, 0826 300 300. Arlette Chabot, Christine Bouillot avec nous jusqu'à 9h30 tout à l'heure.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h01, dans un instant on reviendra sur les masques FFP2, est-ce qu'il faut les privilégier justement pour lutter efficacement contre le Covid-19 et des réactions ce matin sur notre question du jour.
Et l'une des questions d'ailleurs qui est autour des masques, est-ce qu'on a réussi à réindustrialiser la France en ce sens ou pas, puisque on en a beaucoup parlé, on l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure avec Manuel Bompard qui était avec nous, hein, de la France Insoumise, qui disait, oui, Emmanuel Macron lors de la séance des vœux, il a dit oui, nous avons réindustrialisé la France, ce qui n'est pas le cas tout à fait pour les masques, même si on en fabrique tout de même un petit peu en France, notamment à Frontignan, hein, c'est ce qu'on verra. Vos réactions aussi à l'actualité, tous les sujets d'actualité.
Et en l'occurrence, cette question du jour sur le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, est-ce que c'était pour vous choquant, mieux avec le drapeau français ou un bon symbole? Pour l'instant, 78% à penser que c'est encore choquant. Et pour en parler, 0826 300 300, Frédéric de Bergerac est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonne année
à vous, bonne année.
Bah oui, vous aussi. Ça va? Pas positif, cas contact ou...
Non, rien du tout. Pas vacciné, pas positif, pas contact. Et puis, par contre, je pourrais rajouter que cette année, je trouve qu'il y a une hésitation à souhaiter la bonne année parce que les gens n'ont pas l'air décidés. Moi, j'y crois. Moi, je suis super optimiste.
Bah oui.
Moi, je pense que dans 4 mois, on va avoir un système qui va changer, sûrement, d'ailleurs. Ouais. De quoi être content à l'avance. Donc voilà. Alors c'est vrai que le week-end, oui, il y avait, vous en mentionne, c'est vrai que ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Il n'est pas resté longtemps quand même ce drapeau européen. Et il y a aussi, vous n'avez pas parlé la médaille de la Légion d'honneur. Là.
C'est vrai, il y a eu beaucoup de médailles.
Peu. Voilà. Alors moi, le problème de l'Europe, quand je vois le drapeau, alors je fais un petit détour, je reviens sur quelque chose. Moi, quand je vois le drapeau européen, je vois Madame Ursula von der Leyen, qui est la pharmacienne de l'Europe, parce qu'elle vient de commander quand même 400 millions de vaccins. Voilà, quand on sait que son mari trempe un petit peu dans le Big Pharma, je demande aux gens d'aller vérifier eux-mêmes sur, évidemment, Internet, puisque c'est pas TF1 ou LCI ou je sais pas où qui vont le dire. Mmh. Et ça fait quand même 10 doses par Européen. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'elle ait annoncé quand même que on allait avoir un rappel tous les 3 mois, elle l'a dit elle-même. Moi, je demande aux gens d'aller voir ce qu'on dit, effectivement.
Ah, pas au début. Oui, peut-être que ça a été évoqué, mais par la suite.
Quand on sait quand même que, de toute façon, a priori, ce vaccin ne fonctionne pas, de toute façon, sur le...
Il évite la gravité pour certaines personnes.
On parle aujourd'hui que l'Omicron, pour moi, c'est fini. Si vous écoutez le docteur Malone, qui commence à dire, plein de médecins, des grands scientifiques, du monde entier commence à dire effectivement que l'Omicron, c'est le dernier normalement,
ça pourrait peut-être
le virus qui... c'est gros chagrin pour
Frédéric, revenons quand même sur le drapeau le drapeau européen. Mais c'est un bon sujet, autrement on l'a déjà évoqué, on va y revenir aussi d'ailleurs dans un instant avec les masques. Sur le drapeau européen, est-ce que vous estimez-vous que c'était une erreur de la part de l'Élysée? Alors qui, après, vous avez vu, a dit non, mais c'était prévu quelques heures, quelques jours, le temps du passage à 2022, puisqu'on assure la présidence de l'Europe, quoi.
Moi, je pense que c'est du foutage de gueule, quoi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que... Moi, je pense qu'à la limite, c'est même peut-être de la provocation.
Oui.
Parce que je sais pas comment on peut s'amuser à ça, quoi. Enfin, la tombe du soldat inconnu, au-dessus, on a un drapeau européen. C'est pas... Enfin, je sais pas, moi, franchement, l'Europe, c'est un truc qui me fait peur, de toute façon. Aujourd'hui, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Je suis pas forcément anti-européen, mais enfin, quand je vois qu'aujourd'hui, les Allemands, ils commandent des hélicoptères qui sont pas des hélicoptères français, etc. Enfin, je veux dire, on essaie de nous rassurer pour tout, et c'est pour ça que je vous dis, moi je pense que je crois l'année de 2022 sera l'année de la renaissance.
Bon, merci Frédéric. Voilà. Arlette Chabot, d'un mot, restez
merci
avec nous,
hein,
Frédéric. Et bonne année, on peut se le dire quand même, hein, mon cher Frédéric.
Oui. C'est sûr, à mon avis, c'est sûr.
Oui. Arlette et d'un mot, Christine Bouillot aussi, sur cette histoire en fait du drapeau européen. Alors on a beaucoup disserté depuis vendredi, mais tout de même, est-ce que Emmanuel Macron, en acceptant quand même de garder la présidence européenne, ne risque pas d'apparaître un peu trop lointain pour les Français, alors qu'ils réclament aussi de la proximité?
Alors, je pense que c'est un risque pour le président. Alors, il l'a accepté. Hein. Il pouvait très bien demander.
Reporter.
On lui a proposé de reporter et de différer. Il a accepté parce que l'Europe, ça, au moins, on ne peut pas dire le contraire. C'est sa conviction profonde, c'est son engagement. Il n'a jamais varié.
Ouais.
Et il espère évidemment tirer un avantage, mais ce n'est pas évident parce qu'effectivement, avantage, ça veut dire résultat.
Ouais.
Notamment, il l'a dit lors de ses voeux, il faut que ça profite aux Français, qu'ils en tirent des avantages avec, le contrôle des frontières.
Ouais.
Schengen, revu et corrigé.
Ouais.
Et ça, c'est pas évident qu'ils obtiennent des résultats. C'est très vite. Après, il y aura beaucoup de manifestations en France, des sommets un peu partout, consacrés à la culture, à la défense, aux relations avec l'Afrique.
Je ne sais pas s'ils pourront vraiment se tenir, d'ailleurs.
Questions. Est-ce qu'ils pourront se tenir, effectivement, compte tenu de l'épidémie? Et puis, deuxièmement, les Français pourront considérer que il est un peu hors sujet, le président. Pas évident.
Oui, c'est pas évident. De nouvelles mesures aussi, voyons le factuel avec vous, Adeline Duvoux, des nouvelles mesures qui aujourd'hui entrent en vigueur dans les écoles, notamment. On va vous faire réagir dans un instant, dans les entreprises, dans les transports, les bars, restaurants. Les mesures d'isolement sont en revanche moins contraignantes pour les personnes positives et leurs cas contacts, des mesures qui sont plus économiques que sanitaire.
Oui, Olivier Véran l'a dit clairement, si tout le monde est à l'isolement, le pays est à l'arrêt et c'est dommageable, y compris pour la santé des Français. Le ministre de la Santé dit même que Omicron est trop dangereux pour être totalement stoppé, sauf si on revient à un confinement absolu. Et l'objectif du gouvernement pour l'instant, c'est clairement d'éviter une paralysie du pays. Par exemple, si on prend les 220 000 cas quotidiens, comme c'était le cas samedi, on peut imaginer qu'ils ont eu chacun 5 contacts. Ça ferait donc 1,1 million de personnes à isoler, alors que beaucoup ne seraient pas malades. Et au bout d'une semaine, ça représenterait 7,7 millions de cas contacts isolés. Et alléger ces règles d'isolement, c'est aussi possible parce qu'Omicron serait contagieux moins longtemps. La durée d'incubation est de 3 jours contre 5 avec les autres variants et la souche originelle. Et 95% des contaminations ont lieu dans une fenêtre de 5 jours. C'est ce que confirme le directeur de l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève.
Oui, absolument. D'où les tests que l'on disait tout à l'heure, tests antigéniques pour mesurer si l'on est encore contagieux ou pas, ou les autotests, et puis les PCR, mais les PCR qui vont beaucoup plus en profondeur. Ça fait réagir sur les mesures concernant l'école. Avec nous, au standard, Hakim.
Hakim qui nous appelle de Vosjours. Bonjour Hakim.
Bonjour, j'allais vous faire la blague, j'allais vous faire Vosjours, mais non.
Bonjour.
Bonjour monsieur dame.
C'est où? C'est en Seine-Saint-Denis, c'est ça?
Ouais, c'est limitrophe avec la Seine-et-Marne, c'est de 5 minutes de Villeparisis.
D'accord, très bien. D'accord. En tout cas, merci pour votre
humour. Alors, vous voulez réagir, Hakim, je crois, sur la rentrée scolaire, hein?
Moi, je vous dis franchement, je suis content d'être vieux. Je suis content de ne pas être un enfant. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est dégueulasse. Moi, je vous dis très franchement, c'est dégueulasse ce qu'on fait subir aux gamins. On les traite comme des assassins potentiels, des dangers. On les accuse de tuer leurs grands-parents. C'est immonde. Et le premier à accuser un enfant de l'avoir contaminé, c'est M. Castex, qui accuse sa fille de l'avoir contaminé alors qu'il va faire une chouille quelques jours avant au ministère des Outre-mer, aller à picoler du rhum, quoi. Ces gens-là se foutent de nous. Ils ne nous respectent pas, ils se foutent de nous. Donc, et ce truc sanitaire, moi je vous dis, c'est une dictature. Hein. Honnêtement, les certificats de pureté et compagnie, là, franchement, moi j'ai des filles qui se disent bonjour en ce moment. C'est fatigant.
Ouais. Bon, bah, je comprends votre colère. Hein. Les gens sont excédés par ça, Et puis, c'est vrai aussi que parce que le virus est toujours là et qu'on espérait aussi qu'on allait quand même réussir à diminuer.
Écoutez, honnêtement, de quoi tous ces gens ont peur? Ouais. Si soi-disant le vaccin est efficace, alors qu'il est quand même en phase expérimentale, phase 3. Je suis désolé. Là aussi, il va falloir que vous vous appelez à le répéter. Oui. Parce que, très sincèrement, obliger des gens à ingérer un médicament en phase expérimentale, déjà d'une, c'est pas légal. Deux, n'importe où, quand vous allez à l'hôpital en France, on vous impose pas un traitement, on vous le propose et vous avez le droit de le refuser. Mmh. Je suis désolé, au bout d'un moment, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de nous traiter comme des chiens, quoi. C'est bon.
Ouais. Bon, je comprends votre colère, hein. Hakim, bien sûr, évidemment, dans cette épreuve qu'on subit tous ensemble. Et d'ailleurs, quand on parle de vaccin, on ferait mieux de parler finalement de traitement, hein, puisque c'est quasiment l'équivalent d'un traitement, les fameux traitements qu'on attend et qu'on a évoqué parce que ça permet de retarder, mais ça ne permet pas d'éviter totalement la contagion et la transmission. Merci en tout cas de vos appels au 0826 300 300. On va parler aussi maintenant des masques
FFP2 pour lutter efficacement contre le Covid, et pour en parler avec nous, Christian Curel est avec nous, directeur du PRIAM à Fontignan, président du syndicat des fabricants français de masques.
Bonjour Christian Curel.
Bonjour et bonne année à tout le monde.
Bonne année aussi à vous. Alors, les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. J'ai du mal là ce matin.
C'est la rentrée,
Patrick. Ça fatigue, c'est la rentrée.
Vous me la répéterez 10 fois.
10 fois, oui. Et je ferai 10 fois le tour de la cour également. Donc la différence, c'est que les FFP2 protègent quand même mieux, hein.
Alors ça c'est certain, je vous rappelle que le masque chirurgical ne protège que vers l'extérieur, donc quand vous portez un masque chirurgical, vous protégez les personnes en face de vous, mais vous ne vous protégez pas vous-même.
Ouais.
Alors que le FFP2, lorsqu'il est bien hermétique, donc lorsqu'il est de qualité, ce qui est le cas des masques français, protège dans les deux sens, donc non seulement protège les gens autour de vous, mais vous protège aussi de la part de virus ou de microbes d'ailleurs, hein, qui pourraient vous attaquer, entre guillemets.
Oui, alors vous l'avez dit, des FFP2 français, on en fabrique, on en produit beaucoup ou pas?
Alors, aujourd'hui, on n'en produit pas beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de stocks, et donc la filière était quasiment à l'arrêt. Ouais. Par contre, si on parle de potentiel de capacité de production, la capacité de production qui s'est faite en moins d'un an, est aujourd'hui de 20 millions de masques au minimum dans une configuration normale, ça veut dire qu'effectivement, on peut monter à 30, voire 40 millions par semaine, s'il y a vraiment besoin d'une urgence en termes sanitaires.
Est-ce que on a mis suffisamment de moyens sur la table en France pour pouvoir produire dans cette filière? Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez été soutenu du côté de la filière, Christian Curel?
Pas de souci côté gouvernement, puisque si vous vous rappelez, le 31 mars, Monsieur Macron était venu chez un fabricant historique qui s'appelle Colny à Angers et avait dit que c'était stratégique d'avoir une industrie de masques.
Oui.
Donc il y a eu effectivement à la fois des appels à projets pour créer une filière complète de la matière première jusqu'au produit fini, des plans Covid, des plans de relance qui ont aussi aidé les industriels qui ont quand même beaucoup investi. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une industrie des masques qui est effectivement autosuffisante pour la France, Après, ce qu'on peut regretter...
Alors, de quel masque autosuffisante pour la France? Vous parlez des FFP2, là, ou les autres?
Je parle des FFP2 et des chirurgicaux.
Ah oui, pourtant, moi, je vois dans les magasins, j'en vois beaucoup qui viennent quand même, qui sont fabriqués en Chine.
Hein. Oui, voilà.
Alors, franchement, en vente, j'en vois pas beaucoup de fabriqués en France, quand même.
Mais vous avez raison, c'est ce que j'allais dire. Le bémol est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs continuent à nous regarder. Enfin, une grande partie des acheteurs ne continuent qu'à regarder le prix. Et effectivement, au niveau du prix, dans ce cas-là, on achète des masques chinois, puisque les masques chinois sont en plus subventionnés par l'État chinois. Donc ils sont anormalement bas, ils se retrouvent dans des prix qui sont très inférieurs à ceux d'avant la crise, alors qu'entre-temps la matière première a augmenté de 50% et le fret a augmenté de 500%. Ouais. Donc il est impossible pour les fabricants français de lutter au niveau des prix.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, résultat, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de masques qui viennent de la Chine. Quoi. D'où vient le virus? Eh bien, les masques viennent également de ce pays.
Oui, et d'ailleurs... Je pense que la qualité de ces masques est complètement aléatoire, puisque bon, vous parlez surtout de masques chirurgicaux. Mmh. Un masque qui soit chirurgical ou FFP2 est très sensible à la chaleur, à l'humidité. Quand vous pensez qu'ils sont stockés d'abord dans les docks, puis après ils font 6 à 8 semaines de bateau dans des cales qui sont peut-être pas le meilleur endroit pour avoir une régulation d'humidité, effectivement, vous pouvez voir effectivement comment certains masques peuvent arriver lorsqu'ils arrivent sur le continent européen.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez constaté là, une hausse de commandes des masques FFP2 depuis que certaines personnalités, je pense à Éric Ciotti notamment, qui ont appelé à sa généralisation?
Alors, pas de doute, c'était même avant. Hein, donc avec la résurgence du Delta, il y a déjà eu, je pense, au moins une inquiétude de la part des centres médicaux, enfin hôpitaux, cliniques, etc. Donc il y avait commencé à, un petit peu à refaire des stocks. Ça a été le cas en décembre. Et puis effectivement, depuis qu'il y a le Omicron, on parle beaucoup d'FFP2. À mon avis, à juste raison, je vous explique peut-être pourquoi si j'ai une minute.
Bien sûr, non, mais allez-y.
Effectivement, nous avons effectivement une recrudescence des commandes FFP2, que ce soit d'ailleurs sur le sol national ou à l'international. Donc voilà. Alors pourquoi les FFP2? Parce que c'est sûrement la solution en fait. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le Omicron est tellement contagieux que si on a des jours avec des cas contacts qui restent chez eux, on va paralyser la France complète. On va déjà paralyser le médical, puisque vous avez vu que des lits se fermaient, non pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'il n'y a pas de personnel soignant, ils sont chez eux. Et d'autre part, effectivement, on risque de paralyser toute la partie économique, ce qui est quand même important, puisqu'il faut quand même se nourrir, il faut s'habiller, il faut produire, ne serait-ce que par exemple nous qui produisons des masques, il faut bien qu'on arrive à les produire. Donc le masque FFP2 qui protège tout le monde est quand même peut-être une solution pour que les gens qui soient vaccinés totalement puissent effectivement, lorsqu'ils sont négatifs, puissent reprendre finalement normalement leur boulot, sachant qu'après les autres personnes, notamment celles qui sont fragiles, celles qui sont à risque, c'est-à-dire celles qui sont non vaccinées, vaccinées partiellement ou qui ont plus de 3 mois de vaccination, puissent effectivement mettre des FFP2 pour se protéger. Et à ce moment-là, je pense que la vie peut être à peu près normale, d'autant plus qu'on voit bien que le Omicron est quand même un variant qui est beaucoup moins virulent que le Delta qui était son prédécesseur.
Oui, c'est vrai, Christian Curel, mais en même temps, l'une des barrières, si je puis dire, pour les FFP2, en dehors du fait que certains ont du mal à les supporter, parce que c'est vrai que c'est plus hermétique, et donc ça protège mieux, c'est le coût, c'est quand même plus cher, quoi. Et comme il faut les changer normalement toutes les 2-3 heures, quoi, à peu près...
Non, absolument pas. Les FFP2 se changent toutes les 8 heures en médical, alors que les chirurgicaux se changent toutes les 4 heures. Après, il faut faire une
toutes
distinction.
Toutes les 8 heures, oui, toutes les 8
voilà,
heures.
Toutes les 8 heures. Après, il faut faire une distinction comme tout le monde. Ouais. Si vous voulez, entre un usage médical, vous êtes en relation directe et prolongée avec des malades qui ont des microbes, et effectivement, une partie, on va dire, plus au niveau particulier, que ce soit sur les chirurgicaux ou les FFP2, où le risque est quand même moins important. D'accord ? Alors, le risque de contamination l'est, mais le risque... Et donc, effectivement, le problème, c'est la personne. Si la personne est à risque, elle a intérêt à se protéger beaucoup mieux qu'une personne qui est moins à risque. Ouais. Si vous voulez, une personne qui n'est pas à risque, mon fils a eu... on a fait un Zoom, Noël en Zoom, parce qu'il a attrapé le virus lorsqu'il travaillait, justement, mais il a été oublié chez lui, alors qu'en fait, il était négatif. Clairement, il y a eu un arrêt de travail, si, à mon avis, c'est probablement inutile, et effectivement, les FFP2 peuvent arriver à sécuriser ces genres de choses. Et le coût d'un FFP2 par rapport au coût d'une journée de maladie, à la fois, on va dire, au niveau de l'État, ou le coût d'une entreprise ou d'une organisation, ça peut être un hôpital, de quelqu'un qui ne vient pas travailler, mais ce coût est dérisoire.
Oui, non mais c'est vrai. Et quand vous dites 8 heures, c'est intéressant, Christian Curel, c'est pas forcément d'ailleurs 8 heures non-stop, c'est du cumulé, quoi, non?
Alors,
parce que si vous l'enlevez, vous le mettez 2 heures, mais quand vous êtes après tout seul dans une pièce, vous n'allez pas forcément le garder, quoi.
Alors, c'est comme le chirurgical, si vous voulez. Oui. Il faut distinguer. Si vous êtes en sanitaire, quand vous posez un masque, qu'il soit chirurgical ou FFP2, quand vous le posez, vous le remettez plus. En sanitaire, je parle.
Ah,
effectivement,
oui.
en personnel, tout le monde le fait, hein. Moi, j'ai du masque chirurgical dans ma voiture. Quand je vais prendre le bain, je prends mon masque, je le mets. Et puis, trois minutes après, je le remets. Oui. Et puis après, je le reprends.
Ouais.
Donc ça, si vous voulez. Mais le risque est effectivement différent. Donc, voilà. Ouais. Donc, simplement, je peux vous dire que les masques, la durée des masques normaux légaux, c'est 4 heures maximum pour un chirurgical et 8 heures pour un FFP2. Donc après, il faut distinguer la partie sanitaire et l'autre partie, c'est toujours pareil. Hein.
Ouais, c'est non mais c'est ça, mais dans les relations en fait au travail, c'est quand même intéressant ce que vous dites. Voilà, on peut prendre les FFP2, on le met quand même un peu de côté quand on n'est plus avec des personnes juste en face de soi, et puis on le remet par la suite, quoi, en faisant attention. Quoi.
Bon, et puis, vous parlez du coût, mais pour une entreprise, moi j'ai aussi une entreprise de diagnostic, si vous voulez... Si vous fournir des FFP2 qui sont certes un petit peu plus chers que les chirurgicaux, mais le fait qu'ils se portent deux fois plus, effectivement, vous disiez par deux, donc en gros, c'est quand même un facteur de
trois
seulement.
Ouais.
Et effectivement pour l'entreprise, mais ça représente rien par rapport à des gens qui seraient arrêtés.
Mais ça
n'a rien à voir. C'est-à-dire un masque qui va coûter, allez, je vais dire 50 centimes ou même, allez, on va dire 35 centimes dans un milieu professionnel. Ça ne coûte rien pour une entreprise par rapport à un arrêt de travail.
Ouais, complètement. Merci Christian Curel, donc directeur de Priam. Merci. C'est à Frontignan et président du syndicat.
La société s'appelle Prisme.
Prisme, voilà. C'est le syndicat des fabricants français de masques. Vous êtes présidente de ce syndicat. Christine Bouillot, Arlette Chabot, vous êtes convaincue par les masques FFP2 ?
Je pense que si des voisins, des pays européens, notamment l'Italie, par exemple, le recommandent dans les transports, effectivement, c'est un bon moyen aussi pour à la fois se protéger. Et puis dans les entreprises, les cas contacts, c'est évident.
Ouais.
Alors la question, c'est pourquoi on attend encore une fois, puisqu'on est toujours dans les délais, on attend sans doute de vérifier qu'on a bien des masques FFP2.
Parce que il y en a, il y a des stocks, ce que dit Christian Curel.
Allez dans les pharmacies, demandez des masques et on vous explique qu'il n'y en a plus.
Oui, ouais, c'est vrai. Christine Bouillot, vous avez réussi à en acheter des masques FFP2 ?
Dans la région toulousaine, il y a l'entreprise Paul Boyer qui a, depuis le début de la crise sanitaire, aligné des masques de fabrication et transformé. C'est le spécialiste du matériel de protection pour l'armée et pour l'industrie.
C'est vrai.
Et ils font des masques FFP2 depuis fort longtemps, voire même qui filtrent le virus. Donc, il y a ce qu'il faut et encore faut-il qu'il y ait les commandes derrière. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, depuis quelques jours, on voit revenir plus facilement ces masques FFP2 sur le nez des habitants, sur le nez des commerçants ou même sur effectivement les professionnels de santé à qui il est recommandé d'utiliser ces masques FFP2 quand ils sont en contact des malades. N'oublions pas que dans les hôpitaux, il est envisagé de faire revenir du personnel soignant, y compris s'il est positif, mais avec du matériel qui permet de protéger. Donc ce masque FFP2, il n'est pas très joli. Je voulais demander... pas très agréable. Si, vous pouvez y avoir un peu de relooking.
Vous pouvez dessiner dessus.
C'est ce fameux bec de canard.
Et les élastiques qui tirent les oreilles un peu. Quoi, hein, vous avez un peu la tête en chou-fleur, quoi, si je puis dire.
Il est sympa ce monde. C'est un monde sympa en ce moment.
Allez, dans un instant, les nouvelles règles. Le décompte du temps de parole.
Depuis
qui
le
a changé.
Janvier.
Oui, qui a changé. On va voir ça dans un instant.
Restez avec nous, 9h22, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h24 dans le cadre des présidentielles 2022. Les règles de temps de parole ont changé depuis le 1er janvier. Pour en parler, Maître Grégoire Weigel est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes avocat au barreau de Paris, ex-chef de département en charge du pluralisme de l'information et des campagnes électorales au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA.
Oui, le CSA, avec des règles qui changent, qui ont changé là au 1er janvier ou aujourd'hui, hein, je ne sais plus.
1er janvier.
Oui, au 1er janvier. Quelles sont ces nouvelles règles alors ?
Alors, à partir du 1er janvier, le CSA a ouvert un décompte des temps de parole des candidats et des candidats présumés.
Ouais.
Donc la grande nouveauté, c'est qu'à partir du 1er janvier, pour être très clair, Emmanuel Macron est enfin décompté par l'ensemble des radios, l'ensemble des chaînes de télévision. Et plus on va se rapprocher du premier tour, plus les règles vont devenir sévères. Pendant une période assez longue, on va être en situation d'équité. Il faut représenter équitablement à l'antenne, à la radio, à la télévision, les candidats, même s'ils sont présumés. Et puis, le moment viendra où le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidats.
Ouais.
Alors là, il n'y aura plus de candidats présumés, évidemment. Tous seront des candidats déclarés. Et là, on passera dans un régime d'équité renforcé. Et puis ensuite, on passera dans un régime d'égalité pure et simple quand on entrera dans la campagne électorale au sens de la loi de 62, c'est-à-dire les 15 premiers jours avant le premier tour et l'entre-deux tours.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi de signaler aux auditeurs qui nous écoutent, qui se disent bah, « D'accord, mais alors, on n'est pas dans l'égalité, donc on est dans l'équité, mais comment on décide de cette équité pour les différents partis et les différents candidats ?»
Alors, l'équité, on va procéder avec des indices.
Ouais.
On va s'appuyer sur un faisceau d'indices. Est-ce que vous avez beaucoup de soutien ? Est-ce que vous êtes soutenu par une grosse formation politique ? Est-ce que vous avez une actualité digne de ce nom ? Tous ces éléments vont être pris en compte pour mesurer, en gros, votre droit d'accès aux antennes. Alors, c'est tout à fait subjectif, bien évidemment.
Ouais.
Mais on a bien compris que si on ne fait pas de l'équité, on fait de l'égalité. Et là, c'est complètement aberrant, puisque les candidats qui ont très peu de représentativité sont traités comme les grands.
Et on prend en compte aussi les intentions de vote, les sondages en fait, du moment, les résultats précédents, quoi, la représentation, par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est un cocktail, quoi, en quelque sorte, hein, cette équité.
C'est tout à fait ça. Juridiquement, ça s'appelle un faisceau d'indices.
Oui.
Et on tient compte.
Graves et concordants.
Voilà. On tient compte des sondages aussi. Vous avez raison.
Oui.
Mais en ce qui concerne le chef de l'État, quand vous parlez de cette équité, est-ce que ça veut dire que les ministres aussi vont compter dans cette équité ?
Alors, si les ministres soutiennent le chef de l'État en expliquant qu'il est merveilleux, qu'il est vraiment temps qu'il continue son mandat, qu'il soit réélu. Oui, ils vont être comptés. Ils vont être comptés dans une enveloppe un peu différente. Ils vont être comptés en qualité de soutien et leur temps de parole viendra dans le temps d'antenne du candidat.
Ouais.
Donc, effectivement, non seulement les médias, et je pense à vous,
ouais,
vous devez compter les candidats, mais bien sûr intégrer les temps de parole de tout leur soutien qui compose une autre enveloppe qui s'appelle le temps d'antenne. Il faut garantir cette équité de temps d'antenne.
Question, remarque d'Arlette Chabot, qui s'y connaît en fait depuis quelques années justement.
La catégorie qu'on préfère, c'est candidats présumés.
Oui. Ouais, ouais.
Parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que des candidats qui sont testés dans les sondages, je pense à Éric Zemmour ou même à d'autres candidats, obtiennent leur parrainage. Mais ça, effectivement, on le saura très tard. Donc ça veut dire d'ici là que tous ceux qui, au fond, ne sont pas présents dans les enquêtes d'opinion, n'appartiennent pas à un parti autre catégorie. On va dire les choses comme on dit dans la cour de récré, compte pour du beurre, parce qu'on sait très bien qu'ils ont de forts risques pour eux de ne jamais pouvoir accéder à la compétition.
Oui. Grégoire Weigel, cette réflexion d'Arlette Chabot ?
Oui, évidemment, on peut considérer qu'il y a des candidats qui sont dignes de ce nom et d'autres qui sont moins dignes de ce nom, mais sans aller jusque-là, il faut être réaliste. Il y a quelques années, l'égalité s'appliquait bien plus tôt dans la période électorale, et c'était très compliqué pour les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Donc oui, il y a des candidats qui comptent sans doute moins que d'autres parce qu'ils savent dès le départ qu'ils n'auront pas leurs 500 parrainages, mais qui peut jurer ? Qui peut savoir qui n'aura pas les 500 parrainages ? Souvenons-nous de Dominique de Villepin.
Oui, c'est vrai. À l'époque de Villepin, oui, parce qu'il était candidat présumé, puis finalement, il n'a pas obtenu les parrainages. Quoi. Ouais, il n'a pas été déclaré.
Jusqu'au dernier moment, oui, tout à fait.
Ouais. En gros, c'est du doigt mouillé, comme on dit.
Oui.
Hein, la règle d'équité.
Faisceau, moi j'aime bien quand même ce terme.
Faisceau d'indices.
D'indices. Ça, je dis comme la mise en examen grave et concordant. Ouais,
c'est mieux que doigt mouillé. Non, mais c'est vrai que.
Ouais. Et la même chose aussi pour les éditorialistes, j'imagine.
Alors, effectivement, les éditorialistes, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais la règle du CSA, et c'est un peu perfectionné au point que parfois, je dois bien l'avouer, on comprend pas grand-chose, mais pour les éditorialistes, la règle, c'est la liberté. Puisque derrière toutes ces règles, tous ces décomptes, tous ces petits détails, le but, c'est quand même d'éclairer le public et de garantir le pluralisme. On va décompter les éditeurs et les éditorialistes, pardon, lorsqu'ils vont prendre explicitement
position,
parti pour un candidat. Mmh. S'ils ne le font pas, ils ont le droit d'être critiques, ils ont le droit d'envoyer des louanges à qui ils veulent, mais si on sait que tel éditorialiste soutient tel candidat, tout ce qu'il va dire va être compté dans le temps d'antenne du candidat.
Ouais, donc ils ont intérêt à s'abstenir dans un premier temps de déclarer leur flamme à telle ou telle personne,
et oui.
Parce que sinon ils sont comptés, quoi. Hein.
Et sinon ils sont punis et leur temps de parole compte pour le candidat qu'ils soutiennent, tout à fait.
Oui, allez, on va continuer dans un instant avec vous, maître Grégoire Weigel. Donc c'est particulièrement intéressant ces règles. Si vous avez une question, n'hésitez pas. 0826 300 300.
Est-ce qu'un auditeur engagé compte dans le temps de parole justement?
Les auditeurs, non, les temps de parole pour l'instant. Mais tiens, oui, c'est une bonne interrogation.
On posera la question à tout de suite, 9h31.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h33, on vous parle de temps de parole ce matin dans le cadre des présidentielles 2022. Maître Grégoire Weigel est avec nous, avocat au barreau de Paris, et il a géré ses campagnes électorales pour le CSA, ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui, avec des décomptes qu'on doit renvoyer donc toutes les semaines, hein, il y a quelques changements là, ça s'accélère effectivement à partir de maintenant. On tient nos comptes, hein, je vous le dis, à Sud Radio, fait, comme ailleurs, normalement, on doit tenir ses comptes et renvoyer tout ça le plus rapidement possible, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs de comptabiliser ce qui est du temps véritablement de parole, du temps d'antenne, hein, la fameuse distinction que vous avez observée en fait tout à l'heure. Et puis alors, il y a quelque chose qui est particulièrement important, c'est aussi les conditions de programmation comparables. Expliquez-nous, hein, Grégoire Weigel, c'est-à-dire là c'est sur les horaires, quoi.
Exactement. N'oublions pas que le but, c'est d'éclairer le public.
Oui.
Donc, on sait très bien que la tentation pourrait être de faire passer les candidats importants, susceptibles d'avoir les 500 parrainages, aux horaires les plus favorables. Par exemple, dans votre émission, Le Grand Matin, Sud Radio, c'est le moment le plus écouté pour les radios, donc on fait passer les gros candidats, et la tentation pourrait être de compenser en pleine nuit, à 4h du matin.
Voilà. C'est déjà arrivé.
Alors, c'est arrivé, mais bien sûr. C'est parce que c'est arrivé qu'il a fallu le préciser. Mais c'est toujours possible. C'est possible pendant une première partie du calendrier, jusqu'en gros au mois de février. C'est toujours possible. Ça sera l'équité simple. Mais quand on passera en équité renforcée, ça sera les conditions de programmation comparables. Si vous recevez quelqu'un dans le Grand Matin, eh bien, il faudra recevoir tous les autres. Et si vous voulez, en quelque sorte, on a un système où si vous donnez la parole à un candidat, vous l'offrez également à tous les autres.
Ouais. Juste une question, Grégoire Weigel. Est-ce que les partis, ou en tout cas les candidats, demandent des comptes au CSA? Est-ce qu'ils veulent regarder les comptes, justement, et pour s'appuyer dessus?
Mais c'est très intéressant, puisque souvent les médias expliquent que les règles sont compliquées et qu'il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça et qu'on ferait mieux de changer. Sauf que les premiers demandeurs, vous avez tout à fait raison, c'est les partis politiques. Vous avez vu la polémique sur le discours d'Emmanuel Macron sur TF1 LCI. Tout le monde a demandé le décompte. Donc, bien entendu, de mon temps, si j'ose dire, on recevait des lettres toutes les semaines de toutes les formations politiques pour réclamer le temps de parole, réclamer les décomptes. D'ailleurs, le CSA est obligé de les publier pour essayer d'apaiser les choses.
Et
pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, c'est open bar.
Oui.
Alors oui, ça, il n'y a pas de contrôle de la même manière, quoi, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, c'est open bar parce que, en quelque sorte, le réseau social, c'est vous qui le construisez. C'est vous qui construisez votre réseau social, et donc on peut considérer
votre communauté, en tout cas.
Exactement. Si vous êtes pro-Zemmour, vous abonnez à des comptes pro-Zemmour. Si vous êtes pro-Mélenchon, c'est un compte pro-Mélenchon. Par contre, sur les médias qui utilisent des fréquences hertziennes, on pourrait dire quelque chose qui relève du domaine public pour aller vite, bien, il a semblé logique pour le législateur d'imposer la garantie du pluralisme. Et même si vous l'avez dit, ce faisceau d'indices, c'est quand même assez subjectif, l'idéal reste objectif, c'est-à-dire un décompte mathématique, des minutes, des secondes, des heures.
Ça n'a pas de sens.
Ah, ça n'a pas de sens, vous trouvez, Arlette?
Non,
vous...
je veux dire, ça n'a pas de sens parce que, en fait, tout ça est démodé. Et en plus, il y aura toujours une campagne.
Mais comment feriez-vous autrement?
Il y a des systèmes, on est, je pense, pardon de le dire, un dernier pays, une démocratie où ça se passe comme ça. Au fond, le CSA devrait être une instance d'appel, pardon de le dire. C'est-à-dire qu'un candidat qui est mécontent devrait pouvoir saisir les autorités, ou le CSA, ou ce qui lui succédera. Pour obtenir justice. Mais franchement, obliger les médias à avoir, et vous le savez comme moi, décompter avec 15 secondes, 20 secondes qu'on rajoute au décompte général, quand dans une déclaration, il y a une phrase qui commence par une généralité et qui se termine par un appel à voter et à soutenir tel candidat, tout ça finit par n'avoir aucun sens. En plus, encore une fois, il y a une campagne officielle sur les médias d'État, campagne publique, comme on faisait avant qu'il y ait une démocratie
ouverte. Ça rentre dans la dernière ligne droite. Quoi,
la dernière mais c'est ligne droite, donc tout Grégoire Végal,
sur ce que dit en fait Arlette Chabot, alors, quelle est votre réaction?
Oui. Je comprends très bien, et il est vrai que la France est l'un des seuls pays qui procède ainsi. Mais s'il faut le changer, j'ose dire que ce n'est pas au CSA qui est devenu
la loi. Non, c'est une loi, bien sûr.
Il est obligé de l'appliquer, et la loi, elle a été votée, c'est nos représentants. C'est la loi qu'il faut changer à ce moment-là, la loi doit être appliquée.
Arlette Chabot l'a dit, hein, beaucoup de candidats vont sur les réseaux sociaux. Quand Emmanuel Macron, qui travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, est repris régulièrement par la presse et par les médias, est-ce que c'est décompté ou c'est pas décompté?
Oui, dès lors que vous donnez un temps d'antenne, un temps de parole, que vous reprenez une interview qui a pu avoir lieu sur une autre chaîne, sur un réseau social, n'importe où, que vous vous l'appropriez en le diffusant sur vos antennes, ça doit être décompté à votre compte, à votre crédit.
Oui. Et on rappelle que c'est évidemment valable pour les médias audiovisuels, c'est-à-dire la radio et la télévision, mais ce n'est pas valable pour la presse écrite, hein,
La presse écrite
prend partie, oui.
Oui,
elle peut prendre. Acheter Libération ou acheter Le Figaro, ça reste assez différent.
Oui, totalement. Merci en tout cas de toutes ces explications, Maître Grégoire Végal, donc avocat au barreau de Paris. On vous rappellera, parce que, à mon avis, il y aura parfois des éclairages qui seront nécessaires pendant cette campagne.
Ah, hein. Bon,
en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on va s'intéresser encore une fois, dans La France à vos côtés, à l'ensemble des conséquences autour du Covid.
Ouais, hein. Et on va parler du monde de l'événementiel plutôt que l'audiovisuel, bien sûr. On va parler des traiteurs, parce que les traiteurs, vous savez, très impactés par la crise. Ils pensaient pouvoir travailler beaucoup pendant ces fêtes de fin d'année. Ça a été très compliqué. Pas mal de choses ont été annulées. On en parlera dans quelques instants avec un traiteur et le président de l'UMI, la branche traiteur événementiel du Loiret. À tout de suite.